Bon, si vous voulez bien, ben, on va commencer. Voici tout d'abord les titres des prochains séminaires. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Christophe Salomon, du laboratoire Café à Bruxelles, qui va nous parler de mélange d'isotopes du lithium ultra-froid, un condensat au milieu d'une mer de Fermi. La semaine prochaine, le 30 octobre, ce sera le professeur Thomas Ebessen, du laboratoire des nanostructures à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, qui nous parlera des tamis à photons, un système de transmission optique exaltée à travers une ouverture nanométrique et contrôle de sa diffraction. Le 6 novembre, ce sera Antoine Edman, du laboratoire Café à Bruxelles à Jussieu, qui nous parlera de la mesure et du contrôle du mouvement brownien d'un miroir. Le 13 novembre, ce sera Jean Dalibard du laboratoire Café à Bruxelles, l'école normale, qui nous parlera de l'expérience du baquet tournant avec un condensat de rubidium, nucléation et dynamique des tourbillons quantiques. Enfin, les deux derniers séminaires du mois de novembre, le 20 novembre et le 27 novembre, à 11h, seront remplacés par deux conférences du professeur Alan Griffin de l'Université de Toronto au Canada, qui nous parlera de Two Fluid Hydrodynamics of Trapped Gas Gases. C'est-à-dire que ce sera deux conférences tout à fait en liaison avec le cours que je fais sur la condensation de Bose-Einstein. Voilà, je reviens maintenant au problème qui nous préoccupe depuis la semaine dernière, qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un condensat dans un piège et qu'on tourne ce piège à une certaine vitesse angulaire, oméga. Le piège étant anisotrope, c'est-à-dire ayant, on le tourne autour de l'axe Osen, et le piège est légèrement anisotrope dans le plan XY, les raideurs du potentiel de piégeage, oméga X carré et oméga Y carré, ne sont pas les mêmes, et on définit un paramètre d'anisotropie par epsilon égale oméga X carré moins oméga Y carré, sur oméga X carré plus oméga Y carré. Donc on prend ce condensat, les atomes sont condensés dans l'état fondamental du piège, et on tourne le piège à une vitesse uniforme, angulaire, une vitesse angulaire uniforme égale à oméga, et on se pose la question, quel est dans le référentiel tournant, si je prends le référentiel tournant oméga, le piège à ce moment-là est statique, hein, puisqu'on on a pris justement le référentiel qui tourne avec lui, on peut espérer dans ce référentiel où le piège est indépendant du temps, obtenir un état stationnaire. Question, quel est l'état stationnaire? Quelle est la nouvelle densité spatiale? Quel est le nouveau champ de vitesse à l'intérieur du condensat? Alors, la semaine dernière, je vous ai montré qu'il était possible de calculer perturbativement, puis exactement, la fonction d'onde des atomes, la fonction d'onde dans laquelle les atomes sont condensés dans un référentiel tournant. Pour cela, nous avons cherché à diagonaliser, à trouver l'état fondamental de l'hamiltonien P2 sur 2m plus V, moins oméga LZ, oméga LZ étant le terme supplémentaire qui apparaît dans le référentiel tournant à cause de la rotation. Et je vous ai montré que c'était possible. Et j'en ai déduit la densité spatiale et le champ de vitesse en montrant que la fonction d'onde pouvait être écrite sous la forme racine carrée de rho de R', où rho de R' est la densité spatiale. Évidemment, elle n'est pas forcément réelle. Elle a une phase exponentielle IS de R' et une phase qui n'est pas simplement un facteur de phase global, qui est une phase qui dépend du point où on se place, S de R'. Et alors, pour rho de R', j'ai obtenu une expression aussi bien dans le cas de bosons n'interagissant pas entre eux, qu'on peut appeler le gaz parfait de boson, et je vais montrer à ce moment-là que rho de R', c'était un constant de normalisation près, une exponentielle, une gaussienne, exponentielle, moins, il n'y a pas de i si je m'excuse, moins n sur h bar, oméga x, x' 2, plus oméga y tilde y' 2, plus oméga z tilde z' 2, ça ressemble tout à fait à la gaussienne d'un oscillateur harmonique dans l'état fondamental, à part qu'au lieu d'avoir oméga x, oméga y, oméga z, j'ai oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde. Donc, à cause de la rotation, la densité spatiale du condensat garde les axes du piège comme axe de symétrie, mais avec maintenant des anisotropies différentes. Quant à un gaz parfait interagissant fortement à la limite de Thomas Fermi, j'ai trouvé pour la densité spatiale une expression qui rappelle tout à fait celle dont on a l'habitude pour un condensat à la limite de Thomas Fermi, c'est-à-dire une parabole inversée, qui est la forme insurgée, où j'ai la constante de couplage, mu tilde, un nouveau potentiel cyclique qui va être déterminé par la normalisation, moins n sur 2, oméga x carré tilde x prime 2, plus oméga y carré tilde y prime 2, plus oméga z carré tilde z prime 2. Là encore, on trouve quand les bosons interagissent que la densité spatiale à la forme de Thomas Fermi garde les axes du piège comme axe de symétrie avec des valeurs différentes pour la concavité de la parabole. Quant à la phase ici, elle est très importante puisque, comme vous le savez, pour un liquide quantique, pour un gaz quantique dégénéré, la vitesse est liée au gradient spatial de la phase, plus exactement V, c'est H bar sur M, le gradient de la phase. Alors, ce que sur quoi j'ai beaucoup insisté la semaine dernière, qui est encore important, c'est que quand on étudie la mécanique classique de la rotation, on trouve que la quantité conjuguée, l'impulsion conjuguée de la vitesse de la variable R, c'est-à-dire P, c'est MV dans le référentiel du laboratoire, et dans le référentiel tournant, P', c'est égal à P. Autrement dit, l'opérateur H bar sur X, gradient, prime, par rapport à X', Y', Z', qui est défini dans le référentiel tournant, et qui est associé, l'opérateur quantique associé à P', physiquement représente la vitesse, non pas dans le référentiel tournant, mais dans le référentiel du laboratoire. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel j'ai beaucoup insisté. Et je vous ai montré aussi la semaine dernière, très simplement, à partir d'un calcul perturbatif d'abord, puis un calcul exact, que la phase F de R', c'est une constante M sur H alpha, que multiplie le produit X' et Y'. De sorte que la vitesse, qui est H bar sur M gradient prime de F, c'est alpha gradient prime de X' et Y', et ça a des composantes Vx. Je vous rappelle que c'est dans le système du laboratoire, égale alpha y', vy c'est alpha x', et vz c'est 0. Autrement dit, évidemment, comme la rotation affecte le mouvement transverse, il n'y a pas du tout de modification de l'axe z. Enfin, j'ai obtenu des expressions explicites pour alpha, oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde. Voici l'expression de alpha pour un gaz parfait. Alpha c'est moins oméga, oméga x tilde moins oméga y tilde sur oméga x tilde plus oméga y tilde. Pour un gaz de boson interagissant fortement à la limite de Thomas Fermi, ça ressemble beaucoup, moins alpha, à part que ici j'ai oméga x carré moins oméga y carré au lieu d'oméga x moins oméga y, et ici oméga x carré plus oméga y carré au lieu d'oméga x plus oméga y. Quant à oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde, ils sont donnés par ces équations qui les définissent en fonction de oméga x, alpha et oméga, oméga x carré tilde égale oméga x carré plus alpha 2 moins 2 alpha oméga, oméga y carré tilde égale oméga y carré plus alpha 2 plus 2 alpha oméga, et oméga z carré tilde égale oméga z carré. Ça ne change pas. Donc, j'ai entièrement résolu le problème. On connaît maintenant, dans le référentiel tournant, aussi bien pour des bosons interagissants que pour des bosons en interaction forte à la limite de Thomas Fermi, on connaît la distribution spatiale et on connaît le champ de vitesse. Alors, j'aborde maintenant la suite de ce cours. Je vais donc, mais du moment que je connais la densité spatiale et le champ de vitesse, je peux calculer le moment cinétique du condensat. Je peux le calculer aussi bien dans le référentiel tournant que dans le référentiel du labo, puisque je vous ai montré la semaine dernière que quand P' égale P, le moment cinétique R vectoriel P dans le système du labo et dans le système tournant R' vectoriel P' sont les mêmes. Donc on peut calculer le moment cinétique du condensat aussi bien en l'absence qu'en présence d'interaction. Ensuite, il est évident que quand on fait tourner un objet, son moment cinétique va être proportionnel à la vitesse de rotation. Puis on nous dit que le moment cinétique va être important, et le coefficient de proportionnalité entre le moment cinétique et la vitesse de rotation angulaire, à la limite des faibles vitesses de rotation, c'est par définition même ce qu'on appelle le moment d'inertie du condensat. Donc je vais pouvoir calculer le moment d'inertie d'un condensat, et je vais vous montrer qu'il est anormal, il est beaucoup plus faible que celui auquel on s'attendrait si on avait un corps rigide qui tournait en bloc. Autrement dit, le fait que la vitesse dans un superfluide soit irrotationnelle est un rotationnel nul. Ici, je suppose qu'il n'y a pas de vortex, donc le rotationnel est nul partout. Alors que le corps rigide qui tourne, le champ de vitesse oméga vectoriel R a un rotationnel égal à 2, 2 oméga, Donc, le fait que le champ de vitesse est irrationnel entraîne donc une modification spectaculaire du moment d'inertie. Et pour le démontrer, je vais comparer le moment d'inertie d'un condensat à celui d'autres systèmes, comme un gaz parfait classique, ou comme celui d'un gaz parfait de boson partiellement condensé, c'est-à-dire qu'il y a un condensat en présence d'un nuage thermique. Alors, le plan donc, de la séance d'aujourd'hui, donc, c'est moment d'inertie, moment cinétique et moment d'inertie. Je commencerai par calculer le moment cinétique du condensat à partir des résultats que j'ai rappelés ici. Puis, j'étudierai la limite des faibles vitesses de rotation et j'en déduirai le moment d'inertie. Ensuite, je comparerai le résultat obtenu avec celui prédit pour d'autres systèmes physiques comme un gaz parfait classique ou un gaz parfait de boson partiellement condensé. Et là, je montrerai la différence spectaculaire qui existe entre les deux situations. Et enfin, j'essaierai d'étudier également un problème intéressant qu'on pouvait se poser dès la semaine dernière, c'est comment les phénomènes évoluent-ils quand la vitesse de rotation oméga augmente progressivement d'une valeur très faible à une valeur très forte. Est-ce qu'il apparaît des phénomènes intermédiaires intéressants et quelle est leur interprétation? Donc, commençons par étudier le moment cinétique du condensat. Alors, j'ai rappelé ici l'expression du moment cinétique. Toutes les particules sont condensées dans la fonction d'onde phi 0 de R. Donc, c'est n fois l'intégrale sur R' de phi 0 étoile de R', phi 0 de R', je m'explique dans les notes, j'ai oublié le prime ici, que multiplie l'opérateur moment cinétique dans la phase étonnante, qui est x' h bar sur i d sur dx' moins y' h bar sur i d sur dx'. En effet, je répète une fois de plus qu'h bar i sur i delta prime, c'est l'opérateur associé à P' qui ne coïncide avec MV. Je peux encore écrire LZ égale N fois M D somme de sur l'intégrale sur D3R' de X' JY' de R' moins Y' JX' de R' où J est le courant produit de la densité spatiale ρ de R' par la vitesse B de R', c'est-à-dire comme le champ de vitesse est donné ici. V, c'est h bar sur alpha gradient prime de x prime qui est donné par ces expressions. C'est alpha rho de r prime, y prime pour la composante x prime pour la composante y et 0 pour la composante z. Voilà donc l'expression de Lz. Si je la reporte dans l'expression précédente, les valeurs du courant, je trouve que Lz moyen, c'est nm fois alpha, le coefficient alpha, donc, intégrale sur R' de phi 0 étoile de R'. Alors, vous rappelez, il y avait x' fois vy', les vy' c'est proportionnel à x', donc c'est x' 2 moins y' 2 fois phi 0 de R'. Et ceci, ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne de x' 2 moins y' 2 dans l'état fondamental. Donc, je trouve un résultat très simple que le moment cinétique moyen, c'est nm alpha fois la valeur moyenne de x' 2 moins y' 2. Alors, étudions maintenant cette valeur moyenne, dans le cas d'abord des gaz parfaits, sans interaction, puis dans le cas du gaz à la limite de Thomas Fermi. Alors, vous savez que dans un gaz, pour l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, la valeur moyenne de x2, c'est h bar sur 2 fois m oméga, la fréquence de vibration de l'oscillateur harmonique. Donc, x'2 est proportionnel à 1 sur oméga x et y'2 est proportionnel à 1 sur oméga y. Donc pour un gaz parfait, pour ça c'est important, c'est en fait le résultat qu'on va constamment utiliser, x'2 est proportionnel à 1 sur oméga x et y'2 est proportionnel à 1 sur oméga y. Alors, comment je fais ici? Je vais donc écrire nm, x'2 moins y'2, ici, et alpha, il faut maintenant que je l'utilise ici, alpha, c'est pour un gaz parfait, moins oméga, oméga x, moins oméga y, sur oméga x plus oméga y. Alors, je peux remplacer. Alors ici d'ailleurs, je m'excuse si oméga est là, hein, puisque j'ai pris, on rappelle que la fonctionnement de l'état fondamental perturbé, c'est une gaussienne avec définie par les fréquences oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde. Donc je peux remplacer, comme c'est au numérateur et au dénominateur, les h bar sur 2m sont bons, et c'est x prime 2 moins 1 moins y prime 2 moins 1 sur x prime 2 moins 1 plus y prime 2 moins 1, oméga avec un signe moins. Je réduis au même dénominateur ceci, je simplifie par x prime 2 fois y prime 2, et j'obtiens égal n, m, x prime 2 moins y prime 2, que multiplie x prime 2 moins y prime 2 sur x prime 2 plus y prime 2. D'accord? Donc j'aurai x prime 2 moins y prime 2 au carré, en valeur moyenne, divisé par x prime 2 plus y prime 2. Je multiplie haut et bas par x prime 2 plus y prime 2, et j'obtiens donc n, m fois x prime 2 plus y prime 2, que multiplie x prime 2 moins y prime 2 sur x prime 2 plus y prime 2 moyen, le tout au carré, oméga. Et comme x prime 2 et y prime 2 sont inversement proportionnels à 1 sur oméga x et 1 sur oméga y respectivement, j'obtiens le moment cinétique, c'est nm fois x prime 2 plus y prime 2, que multiplie oméga x tilde moins oméga y tilde sur oméga x tilde plus oméga y tilde au carré fois oméga. Résultat très simple. Calcul analogue pour des bosons d'interaction à la limite de Thomas Fermi. Vous rappelez que dans la limite de Thomas Fermi, le rayon du condensat est défini par l'abscisse R, grand R, où la densité spatiale s'annule. Et cette abscisse elle-même est définie par l'énergie potentielle, 1 demi de m oméga x carré, tilde, égale le potentiel signé. D'accord? Donc, oméga x carré R2 égale une constante, donc ça veut dire que R2, le rayon du condensat, est inversement proportionnel non plus à 1 sur oméga x, mais à 1 sur oméga x carré. Donc, pour la limite de Thomas Fermi, x prime 2 est proportionnel à 1 sur oméga x tilde au carré, et y prime 2 est proportionnel à 1 sur oméga y tilde au carré. Vous voyez la différence qu'on passe de là à là, c'est une puissance de plus pour oméga x tilde et oméga y tilde. Alors, même calcul que tout à l'heure, mais maintenant, attention, alpha est donné maintenant par cette formule, où j'ai oméga x carré, oméga y carré, au lieu d'oméga x, oméga y au numérateur et au dénominateur. Donc j'obtiens Lz égale moins nm x prime 2 moins y prime 2, et comme j'ai oméga x carré qui est inversement proportionnel à x prime 2, j'ai x prime 2 moins 1 moins y prime 2 moins 1 sur x prime 2 moins 1 plus y prime 2 moins 1, je réduis au même dénominateur comme tout à l'heure, je multiplie haut et bas par x prime 2 plus y prime 2, et je vois nm x prime 2 plus y prime 2 moyen, que multiplie x prime 2 moins y prime 2 sur x prime 2 plus y prime 2 au carré oméga, même expression tout à l'heure. Mais si je réexprime ceci maintenant en fonction de oméga x oméga y, en utilisant ces relations-là, j'obtiens que Lz, c'est nm fois oméga, que multiplie x prime 2 plus y prime 2, que multiplie oméga x carré moins oméga y carré sur oméga x carré plus oméga y carré avec d zeta, le tout au carré. Voilà donc le moment cinétique calculé, et je peux passer maintenant au moment d'inertie. Que j'appelais Tessa, pour me conformer aux notations utilisées dans les références. Alors, de manière générale, on peut définir le moment d'inertie de la manière suivante. On prend un système physique, on le met dans un référentiel qui tourne à la fréquence oméga. Dans ce référentiel tournant, il faut ajouter donc à la Newtonienne la perturbation moins oméga Ln. On calcule le nouvel état fondamental en présence de cette perturbation. Et à cause de cette perturbation, il apparaît un moment cinétique moyen, qui était nul quand le système ne tournait pas, qui, à l'ordre 1 en oméga, vaut Lz égale theta oméga. Donc, la définition de theta, c'est que la valeur moyenne de Lz, c'est équivalent, lorsque oméga tend vers 0, à oméga fois theta. C'est proportionnel à oméga, c'est la réponse linéaire, si vous voulez, à la rotation, et c'est la susceptibilité, le coefficient de oméga dans la réponse linéaire du système. Alors, on va maintenant utiliser les résultats précédents pour calculer le moment d'inertie. Si je reviens aux expressions de Lz, vous voyez qu'aussi bien pour un gaz en interaction que pour un gaz parfait, le moment cinétique est proportionnel à l'oméga, et j'ai ici le coefficient de proportionnalité. Mais dans le coefficient de proportionnalité apparaissent oméga x tilde, oméga y tilde, et non pas oméga x, oméga y. Mais n'oublions pas que je suis par hypothèse, à la limite des faibles rotations. Et si je reviens maintenant à ces formules, d'abord, alpha est proportionnel à oméga, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Et ces deux formules-là qui donnent oméga x carré tilde oméga y carré tilde, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'elles sont valables aussi bien pour le gaz parfait que pour le gaz en interaction force. Donc ce terme est un oméga 2, ce terme est un oméga 2. Donc, alors le plus bas en oméga, oméga x carré tilde, oméga x tilde est égal à oméga x, oméga y tilde est égal à oméga y. Donc si je me limite à un calcul d'ordre le plus bas en oméga, comme LZ est déjà proportionnel à oméga, le reste n'est pas remplacé par les valeurs d'ordre 0, c'est-à-dire pour remplacer oméga x carré tilde à oméga y carré tilde par oméga x et oméga y. De même, il sera intéressant pour comparer avec la situation habituelle, il sera intéressant d'introduire ce que je peux appeler le moment cinétique, le moment d'inertie rigide, θ rigide, qui est la valeur qu'aurait le moment d'inertie du corps s'il tournait en bloc. Alors, vous savez que le champ de vitesse d'un système qui tourne en bloc, c'est oméga vectoriel R. Donc le moment cinétique, ça va être proportionnel à oméga fois R2. Et le moment d'inertie, le coefficient proportionnel à R2, ça va être somme sur I de MI RI carré. Donc, le moment rigide, ça va être N, le nombre de particules, M la masse, qui multiplie la valeur moyenne de X'2 plus Y'2. La valeur moyenne de R2 dans le plan perpendiculaire à l'axe Z. Donc, il est intéressant donc, de comparer, d'exprimer toutes les grandeurs en fonction du moment d'inertie rigide. Et voilà ce que nous obtenons. Si je reviens au cas du gaz parfait de tout à l'heure, ici, je remplace ici par oméga x, j'enlève les tilde, le coefficient d'oméga, ça va être le moment d'inertie rigide, que multiplie ce coefficient oméga x moins oméga y sur oméga x plus oméga y au carré. Si je prends le cas du gaz en interaction forte, je trouve le moment d'inertie rigide, oméga, et un facteur correctif qui va être oméga x carré moins oméga y carré sur oméga x carré plus oméga y carré, puisque je remplace les tildes. Donc, le résultat important est le suivant, c'est que dans les deux cas, le moment d'inertie est beaucoup plus petit que le moment d'inertie rigide, par un facteur qui est ce facteur pour le gaz parfait, ce facteur pour le gaz en interaction à la limite de Thomas Fermi. Et vous voyez que si oméga x tend vers oméga y, le moment d'inertie tend vers 0. Alors que s'il était un gaz rigide, il n'y aurait aucune anomalie qui se produirait quand oméga x tend vers oméga y. Donc ça, c'est une différence spectaculaire. Et il est intéressant maintenant de voir de calculer explicitement, de faire le même calcul pour d'autres systèmes que des particules condensées toutes dans le même état quantique. C'est ce que j'aborde maintenant. Donc, troisième paragraphe, comparaison avec d'autres systèmes. Et je vais commencer par un cas très simple, un cas classique. Alors, pour un gaz classique, l'hamiltonien, on va faire assez tournant, c'est les hamiltoniens à une particule, l'ensemble des hamiltoniens à une particule, sigma sur i de H0 de i moins oméga L'z de i. Et comme je suis en physique classique, je prends la fonction de la densité classique dans l'espace des phases, définie par 1 sur z, exponentielle moins bêta, l'hamiltonien total, qui est somme sur i de 1 à n de H0 de i moins oméga L'z de i. Où H0 c'est 1 sur 2m P'X carré plus P'Y carré plus P'Z carré plus M sur 2 l'énergie potentielle. Et le moment cinétique c'est X' P'Y moins Y P'Y. Bêta c'est 1 sur KT. Et Z c'est la fonction de partition. Classique. Alors ici sur le physique classique, donc tous les objets commutent. Et si oméga est tout petit, et puissance moins bêta oméga LZ10, je peux laisser 1 moins bêta oméga LZ10. Un plus parce qu'il y a un sigma ici. Et sigma ici. Donc je fais un développement en puissance d'oméga. Et je trouve qu'à l'ordre 1 inclus en oméga, la densité classique, c'est F égale F0 que multiplie 1 plus bêta oméga somme sur i de L'ZI. J'appelle F0 et Z0 les valeurs de F et de Z en l'absence de perturbation, c'est-à-dire pour oméga égale 0. Maintenant, ayant cette expression approchée de F à l'ordre 1 inclus en oméga, je peux calculer la valeur moyenne de F'z à l'ordre 1 inclus en oméga. Alors, la valeur de F'z dans F0 est nulle, puisque F0 est invariant par rotation, donc il n'y a pas de moment cinétique. Et j'ai donc F'z, ça vient uniquement de ce terme que je sors, bêta oméga intégrale sur F' et P' de F0 que multiplie, alors, LZD, donc je cherche la valeur moyenne, que multiplie ce terme qui me reste dans la densité, sigma sur i de L'ZD au carré. C'est-à-dire, les n termes sont les mêmes, donc j'ai bêta oméga n L'Z carré, c'est bêta oméga n, la valeur moyenne dans l'état fondamental, de x' p'y moins yp'x au carré. Alors quand je lève ça au carré, j'aurai plusieurs termes, et les termes qui font intervenir p'x, p'y, une composante différente pour p sur x et sur y, sont nuls à cause de la symétrie de F0. Donc ces termes sont nuls. Reste les termes carrés, en p'y carré, en p'x carré. Or, je sais que dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, en équilibre thermodynamique, théorème de l'équipartition d'énergie, p'x carré sur 2m est égal à 1 demi de kbt, et de même p'y carré, donc p'x carré et p'y carré, c'est m kbt, c'est-à-dire m bêta moins 1, il me reste donc x' 2, y' 2. Avec un signe plus, parce que quand j'élève au carré, évidemment, j'ai du signe plus. C'est uniquement le double produit qui a un signe moins. Et j'obtiens donc finalement f'z égale oméga, somme sur i de 1 à n de m, x' carré plus y' carré 0 dans l'état fondamental, et je retrouve oméga θ rigide. Donc, si j'ai un gaz parfait classique dans un gaz qui se tourne, je retrouve le moment cinétique rigide. Alors, j'ai fait une hypothèse ici, il faut bien voir, hein, j'ai fait une hypothèse ici, et je voulais que le système atteignait l'équilibre thermodynamique. Je supposais que, par suite des collisions entre ces particules ou avec les paroles des récipients, le système va atteindre un équilibre thermodynamique. Alors que dans un gros ensemble, ils sont tous dans l'état fondamental. Autre exemple. Prenons un gaz parfait de boson. Maintenant, je prends un système quantique. Et puis, j'ai calculé, j'ai supposé qu'il est partiellement condensé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des atomes dans l'état fondamental, un nombre macroscopique d'atomes dans l'état fondamental, c'est-à-dire un condensat, et en même temps un nuage thermique. Des atomes qui ne sont pas condensés. Le calcul perturbatif du moment cinétique est relativement facile, on va le calculer, on va voir si c'est possible. Et si le gaz est partiellement condensé, dans la contribution à L'Z, j'aurai deux termes, un terme qui provient des atomes condensés, et un terme qui provient des atomes non condensés, et ça sera intéressant de les comparer directement, de voir s'ils se comportent exactement de la même façon. Donc après avoir étudié le gaz parfait, classique, je prends un gaz parfait de boson. Alors ici, je suis le calcul qui est présenté dans la référence numéro, c'est la référence de l'article de Stringari, où il fait pour la première fois un calcul de ce type, qui est l'article de 96, c'est la référence 3. Alors, j'ai suivi dans le cours précédent une méthode un peu différente. J'ai calculé la fonction d'onde de l'état fondamental du condensat. Et à partir de cette fonction d'onde perturbée, j'ai calculé le champ de vitesse et la densité spatiale. Puis j'ai calculé le moment cinétique, et j'ai cherché les coefficients de l'oméga. On peut procéder de manière différente et calculer directement par la théorie des perturbations la valeur moyenne de Lz. On ajoute une perturbation en moins oméga Lz et on regarde la valeur moyenne de Lz, c'est-à-dire qu'on fait de la réponse linéaire. On utilise la théorie de la réponse linéaire. Donc, c'est ce que je vais suivre maintenant. Au lieu de calculer donc la structure du champ de vitesse, et dans les durées de l'oméga, je vais calculer directement le moment cinétique moyen des n bosons à partir de leur état perturbé et d'appliquer la théorie des perturbations. Comme on dit L'Z moyen, ça sera la valeur moyenne de L'Z dans l'état physio tilde à perturbé. En principe, il faudrait mettre moins la valeur moyenne dans l'état non perturbé, mais elle est nulle. Hein. Donc, et où physio tilde, l'état perturbé, c'est physio, et j'applique la théorie des perturbations, moins oméga, somme sur n égale n différente 0 de phi n, l'élément de matrice de F'Z entre physio et phi n, divisé par la différence d'énergie entre l'état de douce et l'état par lequel je contamine l'état fondamental. Le signe moins provient ici du fait que la perturbation, c'est moins oméga F'Z. Ayant ceci, prenant le bras associé à ce qu'est, prenons la valeur moyenne de x, z, utilisant le fait que la valeur moyenne de x, z dans f0, x0 est nulle, j'obtiens immédiatement que la valeur moyenne de x, z dans phi 0, phi 0, c'est 2 fois oméga, que multiplie somme sur n différente 0 de l'élément de matrice au carré de f'z entre phi 0 et phi n, divisé par n moins 0. Alors, j'ai changé le signe par rapport à là, c'est ce qui m'a fait partir le signe moins ici. Hein. On est prendre 0 moins n, j'ai pris n moins 0. Il faut donc calculer cette somme maintenant, qui n'est rien d'autre, si vous voulez, que la susceptibilité. Hein. C'est la réponse linéaire, le coefficient de oméga dans la réponse linéaire. Et nous allons voir qu'on peut calculer exactement ce terme. Mais avant de le calculer, on va faire une petite généralisation. L'expression précédente, je supposais que tous les atomes étaient dans l'état phi 0. Je supposais maintenant qu'ils sont dans un mélange statistique des états propres de H0 avec des poids Pm. Donc, au lieu de supposer initialement le système, toutes les particules condensées dans l'état phi 0, l'état fondamental, je vais les supposer maintenant dans un mélange statistique des états propres phi m de H0, au chapeau, avec des poids Pm. Alors, il faut que je reprenne l'expression de tout à l'heure, en remplaçant phi 0 par phi m, en faisant toujours la sommation sur n, comme tout à l'heure, en pondérant chaque contribution de phi m par le poids statistique phi m de phi n, en sommant sur n. Donc maintenant, j'ai deux sommes, j'ai deux oméga, somme sur n différent de m, de phi m, j'ai remplacé n-0, j'ai n-m, au lieu d'avoir phi 0 phi n, j'ai phi m, lz, phi n, au carré, j'ai maintenant ceci. Évidemment, les poids phi m que je vais prendre vont dépendre de l'équilibre statistique considéré, canonique ou non canonique. Donc, j'ai généralisé un peu. L'intérêt de faire ceci, c'est que je pourrais ensuite identifier la contribution des atomes condensés, pi 0, des atomes qui ne sont pas condensés, pi m avec n différent de 0. Alors, maintenant, le calcul est fait sans difficulté. Je donne un peu les grandes étapes de ce calcul et le principe. Alors, une astuce qui permet de faire ce calcul, c'est dire la chose suivante. On a un dénominateur d'énergie. Si on pouvait trouver un opérateur dont les éléments de matrice absorbent ce dénominateur d'énergie, la somme sur les états intermédiaires fera apparaître une relation de fermeture et je m'en rendrai à la valeur moyenne dans l'état fondamental d'un produit d'opérateurs. C'est ce qu'on va essayer de faire. Supposez qu'on trouve un opérateur A tel que l'élément de matrice de A entre phi m et phi n soit égal à f'z entre phi m et phi n divisé par en moins en. Supposez qu'on trouve cet opérateur. À ce moment-là, cette quantité-là que j'ai là, 2 phi n f'z phi n sur en moins en, je peux l'écrire phi m f'z phi n f'z phi n sur en moins en, et j'ai deux fois ceci, hein. Alors, pour l'un des deux, je vais remplacer phi n f'z phi n sur en moins en par a pris entre phi n et phi n, et pour l'autre, je vais remplacer donc phi n f'z phi n par divisé par en moins en, au lieu d'avoir en moins en, j'ai n moins en, j'aurai donc un signe moins, par moins phi m a phi n. Donc, en utilisant donc deux fois la relation précédente pour les deux morceaux qu'il y a ici, je peux mettre cette quantité-là sous la forme phi m f'z phi n phi m a phi n, phi n a phi n, moins phi m a phi n, phi n f'z phi n, c'est-à-dire en sommant sur n ensuite, tout à l'heure, quand je sommerai sur n, la relation de fermeture me montrera que f'z, c'est oméga somme sur m de phi m, la valeur moyenne dans l'état phi n de f'z, commutateur de f'z avec a. Et ceci, ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne complète, oméga fois la valeur moyenne du commutateur de f'z avec a. Donc, comme j'ai dit, si je trouve cet opérateur, je ramène cette somme de perturbations, cette série, je la ramène à la valeur moyenne d'une quantité dans l'état du système. Alors, si je reviens à la définition de A, et si je multiplie, c'est équivalent à En moins, excusez-moi, En moins En fois phi n A phi n égale phi n f'z phi n, et je peux absorber le EN moins EM en mettant un A0 à gauche ici, A0 à distance sur φm me donne EN, et un A0 à droite ici, A0 à distance sur φm me donne φm. Donc, l'opérateur que je cherche satisfait cette relation. Et comme φm et φm sont quelconques, l'opérateur que je cherche est donc tel que son commutateur avec A est égal à L'Z. On peut dire en quelque sorte que l'opérateur A est conjugué de L'Z par rapport à 0. Alors, pour trouver la solution de cette équation, je remarque que L'Z, aussi bien L'Z que A0, sont des fonctions quadratiques de xy, px, py. Donc, je m'attends à ce que A soit lui aussi une fonction quadratique de xy, px, py, qui mélange x et y. Et donc, je cherche une fonction A de la forme somme sur i de 1 à n de A x prime i y prime i, puis c'est un terme en p prime x, p prime x i, p prime y i, puis un terme en x prime i, p prime y i, puis un terme en y prime i, p x prime i. D'accord? Je remets cette quantité dans cette équation-là. Les commutateurs sont tous des commutateurs simples, c'est des commutateurs de p2 avec x, y, px, py, etc. Et j'essaye d'identifier membre à membre les deux quantités et d'en déduire A, B, C, D. Le calcul ne présente pas de difficulté, je ne vais pas vous ennuyer à le détailler ici. Je donne le résultat, c'est que A, on trouve que c'est moins I sur alpha, 1 sur oméga X carré moins oméga Y carré, somme sur I de 1 à N, de oméga X carré plus oméga Y carré que multiplie X prime I, Y prime I, plus 2 sur M, P prime X I, P prime Y prime I. Cette expression n'a de sens, mon calcul n'est valable que si ce dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire si oméga x est différent d'oméga y. Je supposerai donc oméga x différent d'oméga y, et ça ne m'empêchera pas de regarder ce que deviennent les expressions quand oméga x tend vers oméga y. Alors maintenant, il faut que je calcule le commutateur de cet opérateur que je viens de déterminer avec l'Z. Là aussi, je tombe avec des commutateurs de deux fonctions quadratiques de x' y' x' y', et un calcul sans malice me donne que le commutateur de l'Z avec A, c'est 1 sur oméga x carré moins oméga y carré, somme sur i de 1 à n, de n fois oméga x carré plus oméga y carré, que nous dit y prime i carré moins x prime i carré, et l'opérateur, plus 2 sur n, k prime y carré moins k prime x carré. Et maintenant, c'est cette quantité-là dont il faut que je prenne la valeur moyenne dans l'état du système. Maintenant, je vous rappelle que l'état du système, c'est un mélange statistique d'états propres de A0. Donc, seuls les éléments diagonaux de x', y' carré, p'x carré, p'y carré vont intervenir, puisque j'ai un mélange statistique d'états diagonaux. Et on sait bien, ça c'est un résultat de la théorie de l'oscillateur harmonique, que quand j'ai un état diagonal, un état n de l'oscillateur harmonique, la valeur moyenne de px carré est proportionnelle à la valeur moyenne de x carré, le coefficient de proportionnalité est 1 2 oméga 2. Donc, je sais très bien que p'x carré, c'est x', x' carré que multiplie m2 oméga x carré, et que p'y carré, c'est y' carré moyen que multiplie m2 oméga y carré. De sorte que, si je reviens à l'expression précédente, quand je prends la valeur moyenne, je peux remplacer ici ces deux quantités par x' carré que multiplie m oméga x carré, y carré, et ici de même pour p'x carré. Donc je peux me ramener à une valeur moyenne qui ne fait plus intervenir que les valeurs moyennes de x' 2 et y' 2. Et elle est écrite ici, et ça je vais la réécrire. En divisant donc L'Z par oméga, j'obtiens une expression explicite du moment d'inertie, j'obtiens que θ égale petit n fois n sur oméga i carré moins oméga y carré, que multiplie oméga i carré plus oméga y carré fois valeur moyenne de y2 moins x2, y' 2 moins x'2, plus deux fois oméga y carré, valeur moyenne de y'2, moins oméga x carré, valeur moyenne de x'2. C'est donc une expression explicite donc, du moment d'inertie. Et maintenant, je peux aborder la question que je vais poser tout à l'heure, c'est que si mon système de bosons sans interaction, donc sans porter à une température inférieure à la température critique TC, je vais avoir N0 particule dans l'état fondamental phi 0 de 0, et les N moins N0 autres formant le nuage thermique dans les états excités, avec la répartition qui est donnée par la répartition de Bose. De sorte que je peux écrire séparément les deux contributions, la contribution du condensat et la contribution du nuage thermique. La contribution du condensat, je remplace dans cette expression ici, N par N0, et la valeur moyenne de X' de Y' de par les valeurs moyennes dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Donc j'aurai MN0 sur oméga X carré moins oméga Y carré, cette expression-là, où apparaissent X' de 0 et Y' de 0, la moyenne dans le condensat. Les autres particules L, il y en a N moins N0, elles vont me donner une contribution obtenue en remplaçant dans cette expression N par N moins N0 et X' de moyenne, Y' de moyenne par les valeurs moyennes dans le nuage thermique. Bon, on peut continuer ce calcul maintenant, donc très simplement. D'abord, la contribution de θ condensat. J'utilise X'2 égale moyenne dans l'état 0 h bar sur 2m oméga x, Y'2 égale h bar sur 2m oméga y. Je remplace ça là-dedans. Et le calcul ne pose pas ce problème. On remplace, on avait tout à l'heure m, le m disparaît, je vais avoir un h bar 2. J'obtiens ici ces quantités-là. Le calcul se fait sans problème. Et on trouve que θ condensat, c'est N0 fois M, X'2 plus Y'2, 0, qui multiplie X'2 moins Y'2, 0 sur X'2 plus Y'2, 0, le tout au carré, se retrouve exactement le résultat obtenu tout à l'heure. Je retrouve le moment cinétique rigide, que multiplie le facteur de réduction, qui est le facteur de réduction que j'avais trouvé dans le transparent, je crois, 4, 6 ou 4, 9. La formule 4, 6 ou 4, 9. Bon, ça c'est rassurant, je retrouve exactement le résultat tout à l'heure. Alors, le condensat maintenant. Alors, le condensat, il faut que je rappelle des cours, des résultats du cours que j'avais fait en 98, je crois, 96-97, donc il y a un certain nombre d'années, sur le nuage thermique d'un ensemble de bosons. Bien, le nuage thermique d'un ensemble de bosons, sa densité spatiale, à la limite semi-classique où le potentiel chimique est beaucoup plus grand que alpha oméga, ou KT est beaucoup plus grand que alpha oméga, est donné par cette expression, rho thermique de R, 1 sur lambda de Broglie au cube, que multiplie la fonction G3/2 fois Z exponentielle moins V potentiel divisé par KBT. Donc lambda de Broglie, c'est la longueur de Broglie thermique donnée par la formule lambda racine carrée de 2 pi S bar 2 sur M KBT. Z, c'est ce qu'on appelle la fugacité exponentielle bêta mu, bêta 1 sur KT mu le potentiel chimique. Je vous rappelle que la fugacité est égale à 1 quand on arrive à la température critique, qu'elle est très petite devant 1 quand on est près d'au-dessus de la température critique, et qu'elle est égale à 1 quand on arrive à la température critique, et qu'elle reste égale à 1 quand on est inférieur à la température critique, quant à la fonction G3/2 de cette quantité, la fonction G alpha de X, qu'on appelle la fonction de Bose, c'est la somme sur L de 1 à l'infini de X à la puissance L sur L à la puissance alpha. Enfin, l'extérieur, c'est le potentiel dont on a l'habitude. Donc j'ai l'expression de la densité les nuages, et X'2 thermique, c'est l'intégrale sur D3R' de rho thermique de R' X'2, divisé par la normalisation de l'intégrale sur D3R' de rho thermique. Alors, la fonction de Bose, je peux la développer, si je reviens en arrière, je vais avoir des puissances de L de ceci, la puissance de L des exponentielles moins L, moins V extérieur, ça va me faire apparaître moins L fois le potentiel V extérieur, donc je vais avoir m oméga x carré l x2 plus m oméga y carré l y2 plus m oméga z carré l2. Et à part ça, je vais avoir des intégrales qui sont gaussiennes. Tout est calculable. Et pour calculer ces intégrales gaussiennes, évidemment, comme j'ai l m oméga x carré x'2, il faut que je fasse un changement de variable. U2 égale ceci, V2 égale ceci, W2 égale ceci. Et le dx, dy, dz va faire apparaître 1 sur racine de l, 1 sur racine de l, 1 sur racine de l. Donc on va avoir 1 sur l puissance 3/2. Et tout à l'heure, comme j'avais la fonction V3/2, j'avais 1 sur L puissance 3/2. Ces deux L puissance 3/2 au numérateur vont me donner 1 sur L3. Je vais pouvoir apparaître la fonction de Gauss G3 au dénominateur. Quand au numérateur, je ferai apparaître 3 fois 1 sur racine de L. Et puis le X' de ici, j'aurai 1 sur L en plus. Je ferai apparaître 1 sur L4. Et ça va apparaître la fonction de Gauss L4 au numérateur. Donc, je vais avoir au numérateur G4 de Z, au numérateur G3 3 de zen, et puis des intégrales gaussiennes qui sont calculables. Et le résultat final, calcul classique dans tous les bouquins de mécanique statistique, vous le trouvez, je trouve que x'2 moyen thermique est égal à kbt sur m oméga x carré, le résultat que j'obtiendrai si j'avais un oscillateur harmonique classique à la température d'un équilibre thermodynamique, que vous dites g4 de z, g3 de z, et une formule analogue pour y'2. Et d'ailleurs, ces formules ont un contenu physique clair, pour t très grand devant tc, z est très petit devant 1, et la fonction de Bose se réduit au terme d'ordre le plus bas tz, c'est pour un g4 de z sur g3 de z est égal à 1, et je retrouve le résultat habituel de l'équipartition d'énergie qui me dit que l'extrême thermique au carré est égal à kbt sur m oméga x carré, une formule analogue pour y'1 carré. Par contre, quand t est beaucoup plus petit que tc, z est égal à 1, et la fonction g4 est plus concentrée que la fonction g3, donc ce facteur est plus petit que 1, et je trouve bien effectivement que le nuage se contracte, parce que les particules ont tendance à se rapprocher de l'état fondamental. On retrouve l'effet de contraction de la statistique de Bose. Donc g'2 et g'2, si je le reporte là-dedans maintenant, je m'aperçois en particulier que ce cas va disparaître, parce que y'2 est inversement proportionnel à oméga y carré, et y'2 est inversement proportionnel à oméga y carré, il ne me restera que ce terme-là. Donc le dernier terme du crochet s'annule, et le premier terme me donne ceci, et quand je réduis au même dénominateur, je trouve que le θ thermique est égal à m fois n moins n0, la valeur moyenne de x'2 thermique plus y'2 thermique, c'est-à-dire θ rigide. Donc la contribution du nuage me donne exactement celle d'un corps qui tourne de manière rigide. Donc, récapitulation, qu'on fait tourner donc un piège contenant un gaz de boson partiellement condensé, on trouve deux contributions au moment d'inertie. La contribution du condensat, qui est la contribution θ rigide, qui multiplie un facteur de réduction considérable, plus la contribution du nuage, qui est celle d'un corps rigide. Alors, là, c'est un peu délicat. Souvent, les gens disent que c'est une manifestation spectaculaire de la superfluidité. Effectivement. Le problème, c'est que je viens de faire le calcul pour un gaz parfait, sans interaction, et que par ailleurs, quand on regarde la dissipation d'énergie d'une particule qui se déplace dans un condensat, si on prend un gaz parfait, on ne trouve pas la superfluidité. Il faut vraiment avoir un spectre d'excitation élémentaire partant linéairement le spectre descendant pour trouver la superfluidité. Disons que, si on veut être tranquille, ne pas prêter un peu à controverse, on peut dire que la réduction du moment d'inertie est liée au caractère irrotationnel du champ de vitesse. Le fait que un ensemble de particules condensées ne peut avoir un champ de vitesse quand il n'y a pas de vortex de rotationnel nul, empêche d'avoir un champ de vitesse qui est celui d'un corps en mouvement de rotation rigide, parce que pour un corps en mouvement de rotation rigide, on a le rotationnel de V égal à 2 fois la vitesse de rotation. Donc le caractère irrotationnel du champ de vitesse d'un système condensé, qu'il interagisse ou non, l'empêche d'avoir un moment cinétique, un moment d'inertie rigide. Alors, ce résultat important, on peut tout de suite essayer de le tester expérimentalement, et ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Je vous montrerai que cette réduction du moment d'inertie d'un condensat, on peut le voir expérimentalement sur des modes de vibration du condensat qu'on appelle les modes ciseaux. Au lieu d'aborder ce problème maintenant, auquel je consacrerai toute la science de la semaine prochaine, je voudrais terminer ce cours en regardant l'évolution des phénomènes quand la vitesse de rotation augmente. Alors, finalement, les calculs que j'ai résumés ici montrent que les paramètres qui me permettent de décrire le condensat tournant se réduisent au nombre de 3, puisque oméga z carré tilde est égal à oméga z, donc on ne parle pas oméga z carré, ils se réduisent à oméga x carré tilde, oméga y carré tilde, alpha. Et ces trois paramètres dépendent de la vitesse de rotation alpha et du coefficient epsilon égal oméga x carré moins oméga y carré 0, oméga x carré plus oméga y carré qui décrit l'anisotropie du piège. Alors, est-ce qu'on peut étudier les variations de ces trois grandeurs quand la vitesse de rotation augmente? Alors, la réponse est oui, puisqu'on a leur expression ici. Alors, je vais me limiter, j'ai étudié uniquement le cas du gaz en interaction à la limite de Thomas Fermi. Vous pouvez trouver dans la référence à l'article que j'ai donné dans la fin de la semaine dernière, l'article de Cathy Rambelli et Segaré, qui étude également quand gaz parfait. Alors, dans ce cas-là, j'ai les trois équations, celle qui me définit oméga F1 et tilde, celle qui me définit oméga Y et tilde, et celle qui définit alpha. Vous voyez que si je reporte dans cette équation l'expression d'oméga x carré, l'expression d'oméga y carré tilde, je vais avoir une équation unique pour me donner alpha. Alpha en fonction de oméga et des fréquences non perturbées, oméga x carré, oméga y carré. C'est ce que je fais ici. Je remplace donc dans cette équation oméga les tilde, les oméga tilde par l'expression pour donc les quantités sans tilde, et j'obtiens alpha égale moins oméga, oméga x carré moins oméga y carré plus moins 4 alpha oméga, sur oméga x carré plus oméga y carré plus 2 alpha 2, je multiplie les deux quantités et j'obtiens une équation du troisième degré en alpha, sans terme en alpha 2. Donc on peut même écrire explicitement les racines. On a donc 2 alpha 3 plus alpha fois 2 oméga x carré plus oméga y carré moins 4 grand oméga 2 plus oméga fois oméga x carré moins oméga y carré égale 0. Et cette équation a, suivant les cas, une ou trois racines. Et attention, les seules racines acceptables sont celles qui vont conduire à une valeur positive de oméga x carré et d'oméga x carré et là, sinon la densité ne serait pas normalisable. Alors, je ne vais pas étudier le cas général, j'ai étudié un certain nombre de cas particuliers, de cas limites. D'abord, première cas limite, oméga, très petit, devant oméga x, oméga y. Alors, si je reviens à l'équation précédente, je sais qu'alpha est proportionnel déjà à oméga, donc ce terme va être un oméga cube, celui-là aussi un oméga cube, donc je peux simplifier, je peux négliger ce terme, et je vais trouver que alpha égale moins oméga x carré moins oméga y carré sur oméga x carré plus oméga y carré fois oméga, et je trouve l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure pour calculer le moment d'inertie. Je trouve donc que dans cette limite, où j'ai alpha proportionnel à oméga, si je reviens à l'expression d'oméga x carré tilde, oméga y carré tilde, je peux négliger les termes alpha 2 et les autres, et je trouve donc qu'à très faible vitesse de rotation, l'anisotropie du condensat ne change pas. Les raideurs restent les mêmes. On peut étudier maintenant le cas extrême, l'autre cas extrême. Alors, notez ici le signe moins, il y a un signe moins ici. Et je suppose dans tout ce cours que oméga x carré est plus grand qu'oméga y carré, je suppose que le piège est plus confinant sur x que sur y. Donc, alpha négatif. Prenons maintenant le cas opposé où oméga est très très grand devant oméga x et oméga y. Je reviens à l'expression de alpha ici. Alors, oméga est très grand, donc j'ai gardé ce terme. Alors, je vais avoir alpha qui va être en 1 sur oméga, donc je peux négliger ce terme-là. Et quand je fais ça, je trouve que pour oméga très grand, j'ai une racine qui va valoir alpha égale plus 1 sur 4 oméga, oméga x carré moins oméga y carré. Donc, j'ai une racine qui va tendre vers 0, comme 1 sur oméga. Si je reporte cette valeur là-dedans, donc, je vais avoir, ce terme va être négligeable, il va être en 1 sur 2 oméga 2, en 1 sur oméga 2. Alpha oméga, ça va me donner ici, 2 fois alpha oméga, ça va me donner 1 demi de oméga x carré moins oméga y carré. Quand je mets ça là-dedans, je trouve assez facilement, sans problème, que oméga x carré tilde est égal à oméga y carré tilde, est égal à 1 demi d'oméga x carré plus oméga y carré. Résultat qui n'est pas surprenant, quand le piège tourne très très vite, les atomes ne voient que le potentiel moyen, qui est un potentiel isotrope avec une raideur qui est la demi-somme de oméga x carré et oméga y carré. Et notez à ce moment-là que le coefficient alpha change de signe, par rapport à tout à l'heure. Autre résultat intéressant, qu'est-ce qui se passe quand oméga x tend vers oméga y? epsilon égale 0. Alors, si je reviens à l'équation de définition de alpha, le dernier terme s'annule. Alpha sur un facteur, je vais donc avoir une solution qui est alpha égale 0. Et l'autre solution, ça va être 2 alpha 2 plus ce coefficient égale 0. Et ça va me donner une valeur positive de alpha 2 que si le coefficient est négatif, c'est-à-dire si 4 oméga 2 est plus grand que 2 oméga x carré, c'est-à-dire si oméga est suffisamment grand. Donc, si oméga x égale oméga y, pour oméga plus petit que oméga x sur racine de 2, j'ai qu'une seule racine qui est alpha égale 0, et pour oméga plus grand que oméga x sur racine de 2, mais plus petit que oméga x, j'ai 3 racines, alpha égale 0, et alpha égale plus ou moins racine carrée de 2 oméga 2 moins oméga x carré. Et pour oméga égale oméga x, il est facile de voir que l'une des deux racines qui est ici, la racine alpha égale oméga x conduit, ces deux racines se réduisent à alpha égale plus ou moins oméga x, la racine alpha égale oméga x conduit à oméga x tilde égale 0, et la racine alpha égale moins oméga x conduit à oméga y tilde égale 0. Si je dépasse cette valeur oméga x, les racines ne sont plus acceptables parce qu'elles conduisent soit oméga x carré est négatif, soit oméga y carré est négatif, donc elles sont acceptables. Donc l'ensemble de ces résultats est représenté sur le schéma suivant, où sont portés ici alpha sur oméga x en fonction de oméga sur oméga x. Vous voyez que j'ai toujours une racine nulle, et dans l'intervalle moins 1 sur racine de 2, 1, j'ai 3 racines, celle-là, et puis les plus ou moins racines de 2 oméga 2 moins oméga x carré. Vous voyez que ça, c'est un résultat assez spectaculaire, intéressant. Quand j'augmente la vitesse de rotation, je ne passe rien. Ça reste, garde la même isotopie. Et là, il y a une bifurcation et une rupture spontanée de symétrie. Le condensat peut devenir très fortement asymétrique. Alors, je vais donner l'interprétation du résultat dans un petit moment. Alors, si je suppose maintenant que oméga x carré n'est pas égal à oméga y carré, si je prends une anisotropie faible, on peut résoudre numériquement cette équation, et on trouve à ce moment-là la figure de tout à l'heure, là, comme ça, la dérivance se lève ici, et j'obtiens deux branches, une branche comme ça, et une branche comme ça, qui s'arrêtent au point A et au point B. Au point A, oméga égale oméga x, et oméga x tilde devient nul, et au point B, oméga égale oméga y, et oméga y tilde devient nul. Donc à ce moment-là, je trouve deux branches pour le système. Cette courbe est dessinée à la main. Elle est pas. Je vous renvoie à l'article de donner référence pour avoir les courbes calculées numériquement. Alors, vous voyez que ces équations que j'ai obtenues ici me permettent de calculer pour chaque valeur de grand oméga alpha, d'une part, et puis donc par chiffre, oméga x carré tilde, oméga y carré tilde. Et donc, on s'aperçoit que quand on tourne de plus en plus vite, l'anisotropie du condensat change, et son moment d'inertie change aussi, parce que la répartition des atomes change. Mais le condensat garde toujours les axes de vitesse qu'on a de symétrie, résultat qui n'était pas évident. Vous voyez aussi que suivant qu'on est très grand ou très petit, oméga très grand ou très petit, l'anisotropie du piège change de cycle. Alors, je voudrais revenir maintenant sur ce qui se passe en oméga égale oméga x sur racine de 2. Alors, je reviens au cours numéro 2, et au cours numéro 2, j'avais parlé d'un mode de vibration, un mode quadripolaire, une onde de surface, nr égale 0, l égale 2, m égale 2, qui consiste en une déformation elliptique, vous rappelez, on avait une déformation elliptique du condensat, qui tournait à la fréquence oméga q, oméga 0 sur racine de 2. Parce qu'elle était en cosinus de 2 phi moins oméga t. Je vous renvoie donc à un transparent, donc c'est pas noté là, mais il est. Oui, c'est T42. Hein. Vous reportez au maths précédent, c'est la figure T42. Alors, il faut bien voir d'où vient le 1 sur racine de 2. Il y a un facteur 1/2 ici. Parce que ça tourne en cosinus de phi moins oméga t. C'est un mode m égale 2, donc et puissance 2j phi. Donc c'est un cosinus de phi moins oméga t. Et oméga, c'est la fréquence quadripolaire. Et la fréquence quadripolaire, oméga q, c'est oméga x racine de 2. Et oméga x racine de 2 divisé par 2, ça me donnait oméga x racine de 2. Donc, cette déformation elliptique correspondant au mode m, l égale 2, m égale 2, tourne à la fréquence oméga x racine de 2. Et le phénomène que je vois apparaître, la bifurcation, c'est quand la rotation du piège est égale à cette fréquence. Donc, on comprend que ce qui se passe ici, c'est que quand on a un piège métallique qui est isotrope, quand on tourne le piège à cette fréquence, on excite de manière résonante cette perturbation elliptique qui tourne à la fréquence oméga x sur racine de 2. Donc on peut considérer que cette bifurcation a à voir avec le mode de surface L égale 2, M égale 2. Je vais même aller un peu plus loin maintenant. Et on va se poser un problème tout à fait analogue à celui qu'on se pose quand on prend une particule qu'on la déplace dans un superfluide et qu'on regarde à quelles conditions il est possible de transférer de l'énergie et de l'impulsion de la particule au condensat. Ici, je vais reprendre le problème sur le moment cinétique. Je vais traiter le piège qui tourne comme plus le condensat comme un système isolé, mécaniquement. Et je vais appliquer la conservation de l'énergie du moment cinétique à ce système. Donc, j'ai un piège tournant et un condensat formant un système global isolé. Parfois, on a un état initial, on a un piège de moment d'inertie I, I c'est le moment d'inertie du piège macroscopique, qui tourne à la vitesse angulaire oméga I, une vitesse angulaire initiale oméga I. Et le condensat est dans l'état fondamental. État final, le piège tourne à une vitesse un peu plus faible, oméga F, et une excitation élémentaire a été créée dans le condensat, excitation élémentaire qui est un mode de vibration, qui a une énergie h bar oméga de L, et un moment cinétique h bar L. Ici, j'appelle L le moment cinétique de l'excitation élémentaire que j'ai créé. Et je regarde maintenant les équations de conservation de l'énergie et du moment cinétique. Alors, conservation d'énergie. Au début, le condensat est donc dans l'état fondamental, l'énergie du piège, c'est 1/2 de I oméga I carré. Donc, c'est 1/2 de I oméga I carré, et l'état initial est égal à l'énergie d'état final, 1/2 de I oméga F carré, la vitesse de rotation a diminué très légèrement, donc l'énergie du piège a diminué, j'ai créé une excitation élémentaire à oméga L. Conservation du moment cinétique, I oméga I, énergie cinétique du début, qui est uniquement celle du piège, égale I oméga F, énergie moment cinétique du piège, plus H bar L, le moment cinétique de l'excitation élémentaire que j'ai créée. Alors, de cette équation, on déduit oméga F égale oméga I moins H bar L sur I. Je reprends là-dedans, je lis une oméga F, et j'obtiens une équation qui va me donner h bar L carré sur 2i égale moins h bar L oméga I égale moins h bar oméga L, et je résous en oméga I, j'obtiens que oméga I égale oméga L sur L plus h bar L sur 2i. Ici, toutes ces quantités sont positives, h bar L, I. Et le piège est un système macroscopique, donc il faut faire tendre I vers l'infini. Hein. Donc ce deuxième terme est tout petit, mais je m'aperçois que le transfert résonant d'énergie de moment cinétique n'est possible que si oméga I est supérieur ou égal à oméga L sur L. Sinon, je ne peux pas satisfaire l'équation. Je ne peux pas transférer de manière résonante à la fois de l'énergie et du moment cinétique si le piège tourné initialement a une fréquence plus petite qu'oméga L sur L. De la même façon que quand on étudie le transfert d'impulsion et d'énergie qu'on prend un corps microscopique qui se développe, qui se bouge dans un superfluide, on trouve qu'il ne peut pas y avoir de transfert à la fois d'énergie et d'impulsion si V est inférieur à la vitesse critique, la vitesse du son. Et je vois apparaître ici, oméga L sur L, donc pour une norme de surface L égale 2, oméga L c'est oméga 0 racine de 2, et oméga L sur L c'est oméga 0 sur racine de 2. Donc je retrouve bien le résultat que c'est uniquement au-dessus de cette vitesse de rotation critique que je peux avoir un transfert d'énergie et cette bifurcation est forcément liée à ce phénomène. Il m'a semblé aussi intéressant de reprendre la figure que je donnais tout à l'heure, celle-là, et de supposer maintenant qu'au lieu de porter en ordonnée alpha sur oméga x, je porte module de alpha sur oméga x, je prends cette... Pardon, je mets ma main là-dessus, mais je ne me rends pas compte que c'est pas utile. Donc je prends cette courbe-là et je la replie dans cette direction, et j'obtiens à ce moment-là une figure qui a cette forme. Et si vous regardez cette figure, ça rappelle beaucoup la courbe de résonance d'un oscillateur anharmonique dont l'amplitude dépendait de la fréquence. Et donc vous voyez que quand on est juste à oméga, epsilon égale 0, on va avoir une branche comme ça, quand Epsilon n'est pas tout à fait nul, on voit apparaître quelque chose qui rappelle beaucoup la résonance d'un oscillateur non linéaire. Alors, il y a toute une autre série de problèmes qu'on pourrait étudier ici, que je n'ai pas le temps de faire. Premier problème, c'est que toutes les fois qu'on a un problème non linéaire, il faut faire très attention à la stabilité. On a des solutions, mais ces solutions ne sont pas forcément acceptables parce qu'il peut se produire qu'une déviation infinitésimale par rapport à la solution qu'on a trouvée conduise à une divergence et que le système disparaît. Donc il faut étudier absolument les conditions de stabilité. Je renvoie à deux références, la référence 1 qui est l'article initial de ces phénomènes sont étudiés, la référence d'un article de Yvan Castaigne de Signard qui étudie les branches, les régions de ces courbes qui correspondent à un régime stable. Et celles qui correspondent à un régime instable, bien sûr, il ne faut pas les garder. Je signale en particulier que si on prend l'oscillation du centre de masse, qui ne dépend pas des interactions, on peut vérifier aisément, et si j'ai un moment dans un cours suivant, je le ferai, on peut vérifier aisément que le mouvement du centre de masse, du condensat, est instable si oméga est plus petit qu'oméga, qui n'est stable que si oméga est plus petit qu'oméga y, ou oméga plus grand qu'oméga x. Il y a une région d'instabilité qui est oméga compris entre oméga y et oméga x. D'ailleurs, c'est ce phénomène qui permet de mesurer dans ces expériences de manière précise oméga y et oméga x. Deuxième problème important, qui sera certainement mentionné dans le séminaire que va faire Jean Dalibas le 13 novembre, cette excitation résonante d'ondes de surface semble devoir, alors il y a des évidences expérimentales, qu'elle joue un rôle très important dans la manipulation des vortex, des tourbillons. En effet, quand on atteint cette vitesse, on se met à transférer du moment cinétique de manière importante au condensat. Le condensat devient de plus en plus anisotrope et ceci peut servir de point de départ pour amorcer la création de tourbillons. Enfin, je termine avec les références. Donc ça, c'est l'article initial donc, de Cathy Tombelli-Zingari. Ça, c'est un article intéressant où les champs de vitesse sont étudiés. Ça, c'est l'article où on calcule le moment d'inertie du condensat d'un gaz parfait de boson. Ça, c'est l'article où on étudie la stabilité des diverses solutions. Et enfin, ceci, c'est l'article expérimental du groupe de Jean Dalibas, où on montre le lien qui existe entre cette excitation résonante des ondes de surface et la nucléation de tourbillons quantiques. Donc, je m'arrête là, et la semaine prochaine, j'appliquerai les résultats du cours d'aujourd'hui à l'étude de modes qu'on appelle les modes ciseaux. Alors, comme la dernière fois, je m'excuse, mais ce système de présentation conduit qu'on va très vite, je vais aller trop vite, on vient essayer aujourd'hui de me calmer, de faire en sorte que je ne diverge pas. Mais ceci dit, j'aimerais bien que vous posiez des questions, que vous m'arrêtiez au cours du cours, ça permettra d'avoir un débit plus lent et moins rapide. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui ?